Continent Science, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'y a-t-il de commun entre un espoir, une attention, une intention, une obligation, une expérience sensorielle? Qu'y a-t-il de commun entre la racine carrée de 25 ou un cercle carré, voire une licorne ou un simple ballon rangé dans le coffre d'une voiture? Toutes ces questions peuvent se ramener à d'autres encore plus générales, surtout encore plus redoutables. Elles sont d'une certaine manière aussi vieilles que la philosophie. En voici quelques-unes. Que veut dire penser? Que signifie-t-on quand nous affirmons que nous sommes conscients? Ce que l'on désigne dans la période contemporaine par philosophie de l'esprit forme une intense et déjà longue tradition. Elle est concentrée sur un concept central, aux acceptions difficiles, celui d'intentionnalité. Après un premier relevé des dimensions philosophiques des phénomènes mentaux, nous aborderons la question de leur relation avec les sciences cognitives. Ce matin, notre guide est Pierre Jacob, il est philosophe. Bonjour Pierre Jacob. Je vois que vous avez évité les frimas conduisants.
Je les ai affrontés.
Affrontés, mais en tout cas vous n'êtes pas tombé dans les rhumes comme moi. En tout cas, à votre présence précédente à ce micro, c'était un tout autre sujet qui nous avait mobilisé. On peut peut-être le rappeler d'un mot d'ailleurs, c'est que vous faites partie des philosophes qui ne craignent pas de visiter de façon soutenue et avec beaucoup d'intention les laboratoires de sciences. Et donc, vous avez travaillé conjointement pendant plusieurs années avec Marc Jeannereau, à Lyon, pour des questions, là encore, de compréhension cognitive. Un petit mot de rappel?
Oui, c'est vrai. J'étais donc membre de l'Institut des sciences cognitives pendant plusieurs années. Et dans ce cadre, j'ai collaboré avec des chercheurs en neurosciences cognitives, et en particulier, donc, Jeannereau, sur des recherches concernant la pluralité de la vision chez l'homme.
Alors cette fois, c'est tout autre chose. C'est une sorte de... Je cherche l'adjectif qui soit à la fois le plus exact, le plus profond. Mais vous avez, à travers ce livre qui est tout simplement intitulé « L'intentionnalité » avec comme sous-titre « Problème au pluriel de philosophie de l'esprit », proposé une sorte de large treillis, une sorte de balisage minutieux, très très exhaustif, de ce que donc on peut appeler dans la philosophie de l'esprit disposition centrale qui est l'intentionnalité. Mais avant d'aborder de façon frontale, Pierre Jacob, cette question, parce que au début de votre ouvrage, vous mettez les choses en perspective, vous intitulez d'ailleurs ça un prélude historique, vous partez de Descartes, c'est assez étonnant d'ailleurs de trouver Descartes sous votre plume. Évidemment Descartes en contraste avec Aristote, chez qui tout était téléologique. Mm-hmm. Et là, il y a au moins trois ruptures fondamentales chez René Descartes.
Alors oui, le but du livre est d'essayer d'expliquer à des philosophes ou à des non-philosophes, des scientifiques ou des personnes qui s'intéressent à la philosophie et qui ne sont pas forcément philosophes, l'histoire de la philosophie de l'esprit au XXe siècle. L'histoire de la philosophie de l'esprit du XXe siècle, et dans une certaine mesure la philosophie du langage du XXe siècle, découle en grande partie de l'œuvre du philosophe Franz Brentano.
Oui.
Et alors, en fait, je ne me suis pas livré à une histoire détaillée de la philosophie depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXe siècle, mais j'ai pensé qu'il était important de rappeler avant la contribution majeure de Brentano à la philosophie du XXe siècle, à la philosophie du langage et de l'esprit du XXe siècle, d'expliquer pourquoi philosophie cartésienne est une étape cruciale. Et pour résumer les choses, je dirais que la philosophie cartésienne est une étape de clarification fondamentale en trois sens. D'une part, elle clarifie une certaine idée de ce qu'est la science physique. Elle apporte à la question de savoir en quoi consistent les explications physiques du monde une clarification qui consiste essentiellement dans l'idée même du mécanisme. Et l'idée du mécanisme, on le comprend bien si on voit le contraste entre ce qu'exige une explication mécaniste d'un phénomène naturel, du comportement des étoiles, du comportement des planètes, disons de la trajectoire d'un projectile à la surface de la Terre, etc., si on le compare donc aux explications dans la physique aristotélicienne, dont je dirais fondamentalement qu'elle représente encore la présence de ce qu'on pourrait appeler la psychologie naïve au cœur de la conception qu'on se fait de l'explication physique.
Oui, on va y revenir beaucoup d'ailleurs sur cette psychologie naïve. Le deuxième point, bien sûr, Bergeacomme, c'est le rationalisme.
Alors, la deuxième contribution majeure, effectivement, de Descartes, c'est le rationalisme, la clarification de ce qu'est la contribution de la raison à la connaissance et à une certaine idée. La connaissance au sens où Descartes lui-même recherchait des connaissances indubitables, une base infaillible à nos connaissances, ce que peu de philosophes contemporains considèrent comme une tâche réalisable, trouver une base indubitable à l'ensemble des connaissances humaines. Et étant à la recherche d'une base infaillible, indubitable des connaissances humaines, Descartes a proposé une conception rationaliste de cette connaissance qui essentiellement s'appuie sur l'idée que la raison seule, par opposition aux données des sens, aux organes sensoriels, est capable de fournir des connaissances indubitables de la réalité. Et donc il a esquissé cette conception rationaliste. Et le troisième élément que Descartes a apporté à la discussion philosophique contemporaine et qui est absolument crucial car nous n'en sommes toujours pas sortis d'une certaine manière, c'est l'idée du dualisme ontologique entre l'esprit, les choses mentales et les choses matérielles ou physiques. Et je dois dire que dans la philosophie de l'esprit contemporaine, les questions soulevée par l'ontologie dualiste offerte par Descartes, continue à soulever beaucoup de controverses et de discussions.
Oui, parce que deux substances, l'âme et le corps, pour l'une c'est évidemment l'extension géométrique, pour l'autre, c'est quelque chose qui est hors du matériel.
Tout à fait, la pensée.
La pensée, mm-hmm. et comment et donc, vont se coordonner les choses.
Alors je pense que l'importance de la conception dualiste précisé par Descartes, se comprend pour la philosophie et pour l'histoire de la philosophie qui a suivi la révolution cartésienne qui s'est produite au début du XVIIe siècle, et bien c'est que au fond, ce dualisme ontologique systématise une intuition du sens commun, qui est que nous, les humains, nous considérons nous-mêmes, chacun d'entre nous se considère et considère ses congénères comme étant des êtres tout à fait à part dans la nature, des êtres distincts des étoiles, des planètes, des plantes et des autres animaux, par le fait que nous avons une capacité à raisonner qui, contrairement, disons, au reste de la nature, fait que nous ne sommes pas de simples automates et que nous avons, grâce à cette raison, le pouvoir de choisir. Nous avons, cette raison nous confère une certaine liberté dans le choix de nos actions lorsque nous sommes à la croisée de deux chemins, le chemin A pour aller à gauche et le chemin B pour aller à droite. Eh bien, grâce à notre raison, nous sommes libres de choisir plutôt d'aller à gauche vers A plutôt que d'aller à droite vers B. Et au fond, le dualisme ontologique de Descartes apporte une justification conceptuelle, théorique, philosophique à cette intuition du sens commun qui sépare les êtres humains du reste de la nature.
Alors, retour à Franz Brentano, philosophe autrichien, fin du 19e, c'est bien ça, mm-hmm. qui a eu d'ailleurs parmi ses élèves célèbres Sigmund Freud, et il y en a d'autres.
Oui, Husserl par exemple. Oui.
Et il faut évidemment lever une ambiguïté parce qu'on va se servir beaucoup de ce concept qui vous mobilise, Pierre Jacob, qui est l'intentionnalité, donc dans la philosophie de l'esprit. Ça n'est évidemment pas quelque chose qui est synonyme d'un acte volontaire, mais plus exactement, c'est cette intentionnalité, pardon, signifie représenter.
Oui.
C'est bien ça.
Hein. Oui. Alors, si vous voulez, vous avez d'abord commencé par faire référence à Descartes, et vous avez eu raison. Pour Descartes, l'essence des choses mentales, ce qui est commun à tout, les choses, les actes, les événements mentaux, c'est la pensée. À la fin du XIXe siècle, Brentano, qui est né en Allemagne et qui d'ailleurs a été ordonné prêtre avant d'être défroqué et de se marier et de faire l'essentiel de sa carrière universitaire à Vienne, a écrit un ouvrage qui, je crois, est crucial donc pour la philosophie du XXe siècle. Il a repris, au fond, une question centrale dont moi je crois qu'elle découle de notre conception psychologique naïve de nous-mêmes, qui est la question de savoir, comme vous l'avez formulé tout à fait au début de cet entretien, qu'ont en commun des choses apparemment aussi disparates que une intention d'agir, la croyance que 5 est un nombre premier, un remords, une expérience visuelle de la couleur rouge, une expérience olfactive, etc., etc. Et à cette question fondamentale, à laquelle Descartes avait répondu, la pensée, eh bien, Brentano répond, ce qu'ont en commun tous ces différents phénomènes mentaux que nous qualifions intuitivement de mental, c'est l'intentionnalité. Alors évidemment, dans le vocabulaire contemporain ordinaire, on a tendance à confondre l'intentionnalité, le substantif, disons l'adverbe intentionnellement, et le substantif intention, considérer que tous ces termes, disons, ont le même sens, à savoir que il s'agit de déterminer si l'acte effectué par un agent, notamment devant un tribunal lorsqu'on évalue la culpabilité, par exemple, d'un agent qui a pu commettre un tort à un patient humain, un autre être humain, on se demande si l'action de l'agent était intentionnelle, si c'est intentionnellement qu'il a effectué cet acte. Eh bien, dans la philosophie contemporaine à la suite de Brentano, ça n'est pas tout à fait ce sens-là qu'il faut donner au mot intentionnalité, parce qu'il faut distinguer ce substantif intentionnalité du substantif intention, puisque l'idée de Brentano, sur laquelle nous reviendrons évidemment, c'est que l'intentionnalité est une caractéristique de tous les phénomènes mentaux, de tous les états mentaux. Donc, une intention, c'est une certaine disposition mentale particulière qui joue un rôle particulièrement important dans la préparation et l'exécution des actions, mais une perception, un jugement, une croyance, une connaissance, une émotion, une peur, l'amour, la haine, tous ces phénomènes pour Brentano et peut-être pour le sens commun sont des phénomènes mentaux. Et selon, comme nous allons le voir tout à l'heure, la thèse de Brentano, tous ces phénomènes ont l'intentionnalité et ils ont donc la capacité de, comme nous le dirons probablement, viser des objets ou de représenter des états de choses. Et c'est au fond l'analyse de cette relation qui permet à l'esprit de viser des objets très variés ou de représenter des états de choses très variés aussi. Les uns sont des états de choses réalisés, les autres sont des états de choses qui ne sont que possibles et même impossibles, etc. C'est à l'analyse, au fond, de la complexité de ces relations entre l'esprit et les objets visés, où l'esprit et les états de choses représentés, que, à partir de Brentano, la philosophie de l'esprit du XXe siècle s'est livrée. Et donc, pourquoi est-ce que Brentano a choisi le mot intentionnalité pour désigner, comme vous l'avez tout à l'heure dit, la capacité de l'esprit de représenter, de viser des objets, de représenter des états de choses? Probablement parce que, au fond, il a réhabilité un mot d'origine médiévale qui vient du latin intentio et intendere, qui veut dire, au fond, tendre vers, qui exprime l'idée d'une tension mentale de l'esprit en direction d'un objet ou en direction d'un état de choses, un peu, si vous voulez, comme on pourrait dire dans le cas, disons, d'une tension physique, qu'un archer tend la corde de son arc C'est ce que le terme latin tendere et intentio voulait dire initialement lorsqu'il tend son arc en direction d'une cible.
Cette capacité à se former des représentations. Alors, on pourrait continuer, il y a mille façons, ce livre est d'une très très grande richesse, bien sûr, que ce livre sur l'intentionnalité, mais par exemple, une question immédiate qu'on peut se poser, si je me représente une licorne, après tout, un cheval,
oui,
avec une corne unique,
mm-hmm.
Est-ce que je vais pouvoir lui attribuer une quelconque capacité d'existence? Ça, c'est ça engage là encore de graves questions.
Absolument. Au fond, dans sa définition de l'intentionnalité, Brentano a expliqué que tout phénomène mental est dirigé vers des objets, est dirigé vers un objet. Et ces objets peuvent être très variés. Disons, l'ontologie sous-jacente aux objets que peut viser l'esprit grâce à l'intentionnalité sont très variés. Certains objets peuvent être des objets physiques, des pierres, des étoiles, des personnes, des animaux, des plantes, etc., qui existent dans l'espace et dans le temps. D'autres sont des entités, des objets tout à fait abstraits, par exemple les nombres. D'autres sont des objets de fiction, comme par exemple les personnages de la littérature.
Madame Bovary.
Madame Bovary, exactement. Sherlock Holmes, etc. D'autres sont même des entités dont nous savons ou nous découvrons qu'en fait elles sont incompatibles avec des lois arithmétique, par exemple, nous pouvons d'une certaine manière viser des objets arithmétiques impossibles. Par exemple, nous pouvons croire faussement que le plus grand nombre entier est pair. Je veux dire, on peut imaginer quelqu'un qui aurait la croyance fausse que le plus grand nombre entier est pair. Et s'il avait cette croyance fausse, pour Brentano et pour beaucoup de ses successeurs, en formant cette croyance, il viserait un objet arithmétiquement impossible. Ou bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des entités mythologiques qu'on trouve dans la mythologie antique, mais auxquelles aujourd'hui nous ne croyons pas. Et donc, nous voulons tout de même rendre compte du fait que les Grecs de l'Antiquité, par exemple, ont pu viser des êtres mythologiques qui n'existe pas, dont vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé des licornes, donc on peut, semble-t-il, viser mentalement des entités, des licornes, que nous fabriquons, ou que l'esprit humain a réussi à fabriquer à partir du concept de cheval et du concept de corne, alors qu'il, disons, ce concept n'est pas exemplifié dans la nature. Et donc, à partir de cette définition de Brentano, qui dit, au fond, comprendre ce phénomène général, cette propriété générale des phénomènes mentaux, l'intentionnalité, viser un objet, représenter des états de choses, viser un objet, ça implique, semble-t-il, postuler cette catégorie homogène d'objets intentionnels, qui sont tous des cibles possibles pour l'esprit humain, et la question soulevée est une conception satisfaisante de l'intentionnalité exige-t-elle qu'on mette dans un même sac ontologique toutes ces entités, aussi différentes qu'elles soient, comme les objets physiques existants dans l'espace et dans le temps, les objets abstraits que sont les nombres qui n'existent pas dans l'espace et dans le temps, les objets de fiction, et des objets qui sont impossibles parce que nous savons qu'ils sont incompatibles avec des lois, disons, connues, soit de la logique, ou de l'arithmétique, ou de la géométrie, les cercles carrés, sur lesquels ont beaucoup réfléchi les philosophes, par exemple, des entités mythologiques comme les licornes, qui ne sont pas compatibles avec les régularités biologiques, par exemple. Et alors là, si vous voulez, je crois qu'on aborde un problème fondamental qui est, au fond, l'impact de cette définition brentanienne de l'intentionnalité sur la logique du XXe siècle et sur, disons, des questions très générales de logique philosophique. Et en fait, on peut dire que dans la philosophie du XXe siècle, il y a eu un véritable chiasme entre, en gros, deux courants. Il y a eu un courant qui a pris tout à fait au sérieux l'idée brentanienne que il faut rendre compte, disons, des inférences suivantes. Lorsque nous disons les Grecs de l'Antiquité adoraient Zeus, eh bien, ça implique qu'il y a quelque chose qu'adoraient les Grecs de l'Antiquité, exactement de la même manière que si vous dites aujourd'hui George Bush regarde Laura Bush, vous en concluez qu'il y a quelque chose que regarde George Bush. Et que, au fond, indépendamment des croyances générales que nous avons sur la différence entre la réalité physique de Madame Bush et l'irréalité de Zeus, eh bien, nous devons rendre compte de cette conclusion qu'il existe ou qu'il y a quelque chose qu'adoraient les Grecs de l'Antiquité, doit être expliqué sur le modèle de la manière dont nous voulons conclure du fait que George Bush regarde Laura Bush, qu'il y a quelque chose que regarde George Bush. Alors, le représentant le plus important du courant qui a, au fond, systématisé cette idée brentanienne que nous devons postuler une ontologie accueillant tous ces objets aussi différents soient-ils, c'est Alexis Meinong, qui était un élève autrichien de Brentano. Tout ça se situe donc au tournant du siècle. Et Meinong est tout à fait central dans l'idée que pour rendre compte de ce genre d'inférence, pour pouvoir expliquer pourquoi nous sommes conduits à dire que s'il est vrai que les Grecs de l'Antiquité adoraient Zeus, alors il y a quelque chose, un objet qu'adorait des Grecs de l'Antiquité, exactement de la même manière que s'il est vrai que George Bush regarde Laura Bush, il y a quelque chose que regarde Laura Bush, eh bien, au fond, Meinong a été conduit à dire, eh bien, que il faut distinguer, disons, ce que nous exprimerions en français par il y a et il existe.
Oui.
Entre l'être et l'existence. Tout objet que l'intentionnalité peut viser est, possède l'être. Mais seuls certains de ces objets qui tous ont l'être ont l'existence. Eh bien, juste après que Meinong ait formulé cette exigence, qu'une bonne théorie de l'intentionnalité exige qu'on distingue ce qu'on exprimait en français par « il y a » et « il existe », que Zeus est, puisqu'il est ce qu'adoraient les Grecs de l'Antiquité, même s'il n'existe pas aujourd'hui pour nous, puisque nous ne croyons pas à l'existence de Zeus, tout de suite après cette distinction formulée par Meinong, et qui est reprise d'ailleurs par des philosophes contemporains, le philosophe Bertrand Russell, le logicien Bertrand Russell, au début du XXe siècle, qui a d'abord admiré profondément Meinong, et qui a en fait suivi la voie meinongienne dans un livre fameux qui s'appelle « The Principles of Mathematics », qui date de 1903, a écrit un article absolument fondamental qui s'appelle « Sur la dénotation »,« On denoting », à l'époque où il travaillait à la rédaction de la Bible de la logique du XXe siècle qui s'appelle Principia Mathematica avec Alfred Whitehead. Et dans l'article sur la dénotation, précisément, il rompt avec la tradition meinongienne, avec l'interprétation meinongienne finalement de la définition brentanienne, excusez-moi, de l'intentionnalité. Et il dit non, je ne veux pas et il ne faut pas distinguer entre il y a et il existe. Il n'y a pas de différence à faire. L'erreur de Meinong, dit Russell, et il a été là-dessus suivi par la majorité des philosophes, dont surtout représenté par Quine, n'est-ce pas? Il dit il n'y a pas de différence à faire entre l'être et l'existence, entre il y a et il existe, l'erreur de Meinong, comme l'erreur, c'est l'erreur de beaucoup de philosophes de la tradition, c'est de traiter le verbe exister comme un prédicat et le substantif existence comme une propriété, comme être rouge, grand, petit. Et pour lui, exister doit être traité comme un quantificateur, et si on traite exister comme un quantificateur, on ne doit pas faire de différence entre il y a et il existe, puisque la manière dont Meinong propose de distinguer il y a et il existe, c'est de supposer que existe exprime une propriété.
Ouais. Alors, il y a aussi un tout autre problème sur lequel vous faites beaucoup, beaucoup de remarques, qui est, il y en a deux. D'abord la physique naïve, mm-hmm. et la psychologie naïve. Mm-hmm. Alors, une des considérations, et là vous allez me corriger tout de suite pour savoir si j'ai mal compris, mais concernant la psychologie naïve, après tout, on pourrait dire qu'elle est consubstantielle dans ses capacités d'intentionnalité, donc, encore une fois, de se donner des représentations d'objets vers lesquels on tend, consubstantielle à l'émergence, pour parler vite, d'Homo sapiens sapiens.
Alors, moi, je pense que, si vous voulez, l'exercice de la philosophie de l'esprit dont nous parlons consiste à clarifier et mettre de l'ordre dans des intuitions dont l'homme, les êtres humains, Homo sapiens sapiens, qui est une hypothèse que je ne démontre pas mais que j'accepte pour le livre, Homo sapiens sapiens, effectivement, il lui est consubstantiel de souscrire ou d'adhérer à ce que j'appelle la physique naïve et la psychologie naïve. Disons, la physique naïve, c'est la réponse de la cognition humaine, disons, à la perception de la structure et des déplacements, des mouvements des objets physiques qui l'environnent. Et d'une certaine manière, on peut considérer que le mécanisme cartésien est une systématisation des intuitions du sens commun sur la physique naïve, alors que je dirais la physique aristotélicienne représentait l'intrusion de la psychologie naïve dans la physique naïve, ou représentait, si vous voulez, une combinaison entre physique naïve et psychologie naïve, dont Descartes a effectué la séparation. La psychologie naïve, je crois, c'est cette idée que tous les êtres humains ont sur eux-mêmes un certain nombre de conceptions, de représentations. Ils se croient, comme je l'ai dit tout à l'heure, libres, à la différence des pierres, des étoiles ou des planètes, libres d'agir, parce qu'ils se prennent pour des êtres conscients, des êtres qui pensent, comme l'a dit Descartes, des êtres qui raisonnent, comme le dit Brentano, des êtres qui possèdent l'intentionnalité. Donc, moi je dirais que une question intéressante soulevée par l'examen, quand on prend conscience de l'existence de la psychologie naïve, si on croit qu'effectivement il y a ces conceptions qu'ont les êtres humains sur eux-mêmes, qui n'est pas une construction culturelle du 18e, du 20e siècle, mais qui est véritablement propre au fait d'être humain, alors je crois qu'on peut voir à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si un être humain qui se croit libre, à la différence, comme je le disais, des pierres ou des planètes, s'il est libre de se croire libre. C'est-à-dire que s'il est consubstantiel à l'équipement cognitif de l'être humain de souscrire à la psychologie naïve qui inclut la croyance en la liberté qui distingue l'humanité des autres êtres, il est intéressant de peut-être prendre conscience de ce paradoxe que l'être humain qui se croit libre n'est peut-être pas libre de se croire libre. Mais je crois en tout état de cause que l'exercice philosophique commencé par Platon, Aristote, poursuivi par Descartes, dont je dis que c'est une étape fondamentale dans la clarification des questions soulevées par cette psychologie naïve et des relations entre cette psychologie naïve et cette physique naïve, eh bien, je pense que Brentano représente une étape ultérieure après celle de Descartes tout à fait fondamentale, et que la philosophie de l'esprit du XXe siècle est déterminée, la géographie conceptuelle de la philosophie de l'esprit est déterminée par la thèse de Brentano, qui d'une certaine manière vise, après la révolution cartésienne, à apporter une nouvelle clarification et un ordre nouveau dans le désordre des questions soulevées par la psychologie naïve, avec la thèse qu'il a défendue, Brentano, à savoir que tous les phénomènes mentaux, et seuls les phénomènes mentaux, ont ce qu'il appelle l'intentionnalité, ce pouvoir de viser des objets complexes et de représenter des états de choses.
En tout cas, deux thèses, donc. L'intentionnalité n'est la marque du mental que si, d'une part, tous les phénomènes mentaux, comme vous l'avez dit, possèdent de l'intentionnalité.
Oui.
Seuls les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité. Petite question avant d'élargir, Pierre Jacob. Est-ce que, parmi toutes ces dimensions-là, évidemment dans la psychologie naïve, existe cette dimension qu'il faut inférer une sorte de situation réciproque, c'est-à-dire que si je me vis comme le sujet ayant des intentionnalités et que tous les phénomènes mentaux la possèdent, est-ce que je dois en inférer de la réciproque, c'est-à-dire que est-ce que je dois inférer que l'autre aussi est équipé de la même façon avec cette même propriété?
Alors, je pense que pour la psychologie naïve, pour le sens commun, donc, chacun d'entre nous se croit un être pensant, un être conscient, et Brentano va caractériser cette croyance en disant que chacun croit, si vous voulez, posséder l'intentionnalité, et que pour le sens commun, tout autre membre de l'espèce humaine possède également cette caractéristique d'être conscient, de penser, de ce que Brentano nommera l'intentionnalité. C'est seulement la question de savoir comment nous savons que nous sommes des êtres pensants, comment nous savons ce que nous pensons, et comment nous savons qu'autrui est pensant, qu'autrui est un être conscient, et comment nous savons ce qu'autrui pense, ce à quoi pense autrui. C'est seulement quand ces questions sont rendues explicites que des problèmes philosophiques extrêmement complexes émergent. Je crois qu'il y a d'une part la croyance ordinaire, la croyance du sens commun, que nous sommes tous des êtres pensants, que nous savons ce que nous pensons, que nous croyons qu'autrui pense et que nous croyons savoir ce qu'il pense. C'est une croyance ordinaire, je crois, qui fait partie de la psychologie naïve. Mais les questions philosophiques concernant les voies, les processus par lesquels nous savons que nous sommes des êtres pensants et surtout ce que nous pensons, et puis les processus par lesquels nous savons qu'autrui est un être pensant et un être conscient, et par lesquels nous savons ce que pense ou ce à quoi pense autrui, ces questions, lorsque ces questions sont soulevées d'une manière explicite, et elles ne le sont pas probablement par le sens commun, elles le sont par l'exercice de la réflexion conceptuel, philosophique, à ce moment-là, sont soulevées des questions d'une grande complexité, car ça n'est pas évident de savoir et de répondre à la question comment savons-nous que nous sommes conscients, comment savons-nous ce que nous pensons, le contenu de nos pensées, et comment savons-nous qu'autrui est pensant, est lui-même un être pensant, et comment savons-nous ce à quoi il pense.
Alors, concernant les deux thèses de Brentano, en tout cas si on les conjugue, la seconde montre que Brentano est dualiste.
Oui.
Hein, d'une certaine manière.
Comme Descartes.
Voilà, comme Descartes.
Tout à fait. Tout à fait.
Et parmi votre donc extrêmement large et minutieux quadrillage de toutes ces questions-là, avec tous les auteurs qui y ont été mobilisés, certains ont refusé ce dualisme. Ils ont adopté ce qu'on peut intituler la naturalisation de l'intentionnalité.
Oui.
Donc, dans ce cas-là, c'était une sorte, on va opposer au dualisme le monisme, bien sûr, c'est le couple conceptuel opposé qu'on utilise généralement, et donc il y a toute une tendance, c'en est une parmi d'autres, là encore, vers une sorte de monisme physicaliste.
Absolument. Donc, il est clair que la définition de l'intentionnalité rend le phénomène sur lequel Brentano a fait porter notre attention, extrêmement énigmatique et problématique. Et alors, lui-même, Brentano, en affirmant que seuls les phénomènes mentaux, c'est une des deux thèses, de ce qu'on appelle la thèse de Brentano, c'est l'affirmation que l'intentionnalité est la marque du mental, et évidemment, pour que cette thèse, l'intentionnalité est la marque du mental, soit vraie, il faut à la fois que tous les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité et que seuls les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité. Et la seconde affirmation, le second membre de la conjonction, seuls les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité, conduit à une ontologie dualiste de type cartésien. Elle conduit à une séparation entre ce qui est mental et ce qui ne l'est pas. Et c'était exactement ça l'esprit du dualisme cartésien, ou l'esprit ou la matière de, du dualisme cartésien. Bien. Et alors, à ce stade, il faut dire une chose très importante, est que à la fin des années 50, au début des années 60, un logicien dont j'ai déjà et philosophe dont j'ai prononcé le nom précédemment, à savoir Willard Van Orman Quine, dans un livre très important paru en 1960 qui s'appelle Word and Object, le mot et la chose, a formulé ce que j'appelle dans le livre le dilemme de Quine, ce qui est connu et qui est un dilemme très influent, fondamental. Et ce dilemme consiste en fait à dire il faut choisir entre croire comme Brentano à la réalité de l'intentionnalité, à la réalité des phénomènes intentionnels, à la réalité des phénomènes qui tombent sous la définition complexe de l'intentionnalité donnée par Brentano, et auquel cas il faut admettre le dualisme ontologique. Ou bien on est un non-physicaliste ontologiste, un moniste physicaliste ontologique, c'est-à-dire on refuse de séparer les choses mentales et les choses physiques. On croit que seules existent les choses physiques. Mais à ce moment-là, dit Quine, il faut renoncer à croire dans la réalité de l'intentionnalité.
Oui.
J'appelle cette doctrine, la croyance dans la réalité de l'intentionnalité, le réalisme intentionnel. Au fond, Quine dit, tout ce que nous a apporté Brentano et tout ce que les étudiants, les successeurs, les disciples de Brentano nous ont montré, c'est que l'intentionnalité très complexe ne peut pas être naturalisée. Et comme l'intentionnalité ne peut pas être naturalisée, eh bien, un philosophe qui souscrit au monisme physicaliste doit renoncer au réalisme intentionnel, c'est-à-dire à la réalité de l'intentionnalité, à la croyance que ces phénomènes sont réels et qu'on peut-être que ce terme peut entrer dans des explications scientifiques du comportement humain, etc.
Alors, état des lieux, maintenant, si on se reporte à la période, disons, contemporaine,
oui.
C'est un parcours historique qui démarre.
Oui.
Je crois que le livre de Brentano est publié en 1874. On a le sentiment, vu de l'extérieur, là encore, vous allez me corriger, Pierre Jacob, mais que, en particulier, en parallèle avec le développement des sciences cognitives, il y a de plus en plus des gens qui sont sur cette dernière position.
Physicaliste.
Oui.
Bien sûr.
C'est le grand programme.
Oui, certainement. Voilà. Certainement. En fait, si vous voulez
naturaliser l'esprit, souvent, voilà.
Donc, effectivement, un groupe de philosophes a été convaincu par le dilemme de Quine et a donc accepté l'idée qu'il faut choisir entre la réalité de l'intentionnalité et une ontologie physicaliste. Et c'est vrai, de philosophes éminents, très connus, comme par exemple les Churchland, Paul Churchland, qui a épousé un point de vue qu'il appelle le matérialisme éliminatif, qui résout le problème en disant, eh bien, l'intentionnalité n'est pas un phénomène réel, les croyances, les désirs sont des... La croyance que les croyances et les désirs existent est une croyance elle-même illusoire du sens commun de la psychologie naïve, qui n'a aucune valeur scientifique, aucune valeur explicative. Mais même le philosophe éminent, Dan Dennett, par exemple, oui, a tendance, il ne souscrit pas au matérialisme éliminatif, mais il souscrit à une version un peu différente d'une conception physicaliste qui n'accorde pas une véritable réalité à l'intentionnalité et qui soutient que l'idiome intentionnel, les concepts comme ceux de croyance, de désir, etc., ne peuvent pas entrer dans des explications scientifiques causales. Bien. Mais il y a un groupe de philosophes qui, au fond, a refusé le dilemme de Quine, a dit « nous refusons de croire, d'accepter l'incompatibilité entre le réalisme intentionnel, la croyance dans la réalité de l'intentionnalité et l'ontologie physicaliste ». Ce groupe de philosophes, ce sont des philosophes comme, par exemple, Jerry Fodor, Fred Dretsky, Ruth Millikan. Moi-même, je dois dire que je me sens attiré par les positions métaphysiques de ces philosophes qui cherchent à combiner, marier une ontologie physicaliste et la réalité de l'intentionnalité, parce qu'ils souscrivent au fond à l'idée que on ne peut pas fournir d'explication psychologique des comportements humains sans supposer la réalité de l'intentionnalité, la réalité des représentations mentales, qu'on ne peut pas au fond expliquer beaucoup d'actions effectuées par les hommes sans leur attribuer des représentations mentales, des croyances et des désirs et des intentions, et que, sans supposer que ces représentations mentales ont une efficacité causale dans la production des comportements. Ça, c'est une chose aujourd'hui. Donc, il y a ce groupe important de philosophes qui, au fond, se donnent pour but une sorte de métaphysique naturaliste qui consiste à essayer d'expliquer dans des termes acceptables par les sciences de la nature d'où vient l'intentionnalité. Comment se fait-il que les cerveaux forment des représentations possédant les propriétés que Brentano a attribuées à l'intentionnalité, mais sans accepter le dualisme ontologique. Donc, raconter des histoires soit en se fondant sur la théorie de l'information, soit sur la théorie de l'évolution par sélection naturelle, pour essayer de expliquer comment se fait-il que les êtres humains soient dotés de cerveaux, donc d'organes biologiques ayant des propriétés physiques, capables d'exemplifier les propriétés attribuées par Brentano à l'intentionnalité. Mais il y a, je dirais, dans la philosophie de l'esprit du XXe siècle, une énorme part qui est consacrée, non pas tant à évaluer la thèse de Brentano, à savoir seuls les phénomènes mentaux ont l'intentionnalité, mais à évaluer l'autre thèse, l'autre membre de la conjonction, puisque nous avons dit que la thèse de Brentano est une conjonction, à savoir tous les phénomènes mentaux ont l'intentionnalité. Est-il vrai que tout phénomène mental soit dirigé vers un objet, soit une représentation d'un état de choses? C'est tout à fait frappant que dans le cas des croyances, dans le cas des désirs, on puisse effectivement analyser le caractère mental, l'essence commune à tous ces phénomènes en termes d'intentionnalité, comme dirigé vers des objets, représenter des états de choses. Mais il semble qu'il y ait aussi des phénomènes mentaux, par exemple, certaines expériences conscientes comme l'expérience de la douleur, l'expérience du plaisir, l'orgasme par exemple, disons, le plaisir sexuel, qui sont des phénomènes mentaux, mais qui ne semblent pas avoir pour caractéristique fondamentale de représenter quelque chose, de représenter un état de choses ou d'être dirigé vers un objet. Et donc cette question de savoir si, comme le soutenait Brentano, il est vrai que tous les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité, est un point de discussion crucial de toute la philosophie de l'esprit du XXe siècle. Par exemple, Husserl et Sartre, au fond, ont dit « toute conscience est conscience de quelque chose ». C'est au fond, c'est une version de la thèse de Brentano selon laquelle tous les phénomènes mentaux possèdent l'intentionnalité. Et est-ce que c'est vrai que toute conscience est conscience de quelque chose? Ça, c'est actuellement l'objet d'une longue discussion. Par exemple, on peut peut-être être conscient, ou peut-être certains états peuvent avoir une caractéristique, comme disent les philosophes, avoir une caractéristique phénoménale, c'est-à-dire ça ne vous rend pas absolument indifférent d'avoir certaines expériences, sans que ces expériences soient dirigées vers des objets, sans que ces expériences représentent des états de choses. Ça, c'est une question vraiment aujourd'hui cruciale. Et il y a, en gros, les philosophes se divisent en deux grands groupes sur cette question. Il y a les intentionnalistes, qui défendent la thèse de Brentano, qui pensent en fait que, par un certain effort conceptuel, on va pouvoir démontrer que toute expérience, toute forme de conscience est conscience de quelque chose, comme le disait Husserl et Sartre. Il y a les non-intentionnalistes, dont des figures célèbres sont par exemple Tom Nagel, ou bien Ned Block, qui considèrent qu'il y a une caractéristique dans l'expérience phénoménale, une caractéristique phénoménologique, au sens où ça ne vous laisse pas indifférent d'avoir certaines expériences, par exemple visuelles ou olfactives, mais qui ne sont pas caractérisées par les propriétés représentationnelles de l'expérience.
Thomas Nagel, pour son célèbre texte sur les chauves-souris.
What is it like to be a bat? Oui,
qu'est-ce que c'est que d'être
en quoi consiste l'expérience d'une chauve-souris?
Oui. Juste un petit mot avant de conclusion d'ordre plus général. Vous avez parlé de Millikan, donc c'est cette fois une femme philosophe.
Oui.
On n'a pas le temps de rentrer dans la doctrine, mais qui est donc proche de considérations évolutives.
Tout à fait.
Hein. Je répète la question du début. Oui. Il semble que, en tout cas pour les partisans de l'intentionnalité, mais de toute façon pour cette capacité de se donner des représentations, il faut attendre l'apparition de Sapiens, Homo. Il y a des considérations aussi qui font que, par exemple, ça s'appelle le machiavélisme.
L'intelligence machiavélienne.
Oui. L'intelligence machiavélienne, alors, c'est une drôle de chose.
Oui,
ça. Est-ce que c'est partagé par le singe?
Ah oui, certainement. Certainement que, disons,
le chimpanzé ou le bonobono aurait l'intelligence
machiavélienne. D'après les... Alors là, ce sont surtout des psychologues, et des psychologues, disons, évolutionnistes, qui ont mis en avant l'importance des problèmes soulevés par la cognition sociale, la coopération et la compétition à l'intérieur de groupes de primates, dans l'évolution de la cognition des primates, et ils ont nommé intelligence machiavélienne l'adaptation fondamentale chez les primates à résoudre les problèmes soulevés par l'interaction entre les congénères. Faut-il coopérer? Faut-il au contraire entrer en compétition, par exemple? Et certainement que les partisans de cette hypothèse de l'intelligence machiavélienne comme un moteur de l'évolution de la cognition considèrent que ça n'est pas l'apanage de l'espèce humaine d'Homo sapiens sapiens, mais que l'Homo sapiens sapiens a développé cette capacité à un point tout à fait extrême, beaucoup plus sophistiqué que chez les autres espèces. Quant à Ruth Millikan, c'est vrai qu'elle représente un tournant évolutionniste dans la philosophie de l'esprit d'inspiration naturaliste fondamentale, puisque elle essaye vraiment de montrer que les énigmes de l'intentionnalité, au fond, peuvent être résolus ou traités comme des cas particuliers de problèmes de philosophie de la biologie, notamment grâce à la notion de fonction biologique. Oui. Je considère que c'est ça la source vraiment de ce que Brentano lui a nommé intentionnalité, mais qu'elle est d'autant moins dualiste qu'elle considère que ces problèmes se posent dès qu'on aborde la notion de fonction biologique.
Oui. Alors c'est un effort important que cet effort de synthèse que vous avez établi, entrepris, Pierre Jacob. L'intentionnalité, problème de philosophie de l'esprit. Vous l'avez dit rapidement au début, mais parmi les premiers destinataires, on a pu comprendre que c'était subtil, on a pu comprendre que c'était quand même compliqué, il faut vous suivre, à la limite il faudrait presque vous réécouter une seconde fois pour être sûr d'avoir bien compris. Ces choses-là ne sont pas simples, elles appellent beaucoup, beaucoup de distinguo et de subtilité. Vous pensez à qui comme destinataire?
Oui, bien sûr. Les enseignants, les étudiants de philosophie, les chercheurs en sciences cognitives qui emploient le mot intentionnalité, qui se posent les questions sur les bases psychologiques fondamentales minimales pour que un esprit ou une structure soit dotée de ce que Brentano appelle l'intentionnalité, mais qui ne connaissent pas très bien l'histoire philosophique de ce concept. Comment il est apparu dans l'histoire de la philosophie et selon moi, justement, comment il est apparu pour apporter de l'ordre dans les questions et les confusions soulevées par la psychologie naïve, qui est elle-même l'objet de l'investigation en sciences cognitives. Donc je pense que ce genre de livre est fait pour des étudiants de philosophie, des enseignants de philosophie, des personnes, des scientifiques en général, et en particulier, je dirais, des chercheurs qui s'intéressent à la psychologie, qui s'intéressent à l'étude de la cognition, pour leur montrer comment tout un pan de la philosophie du XXe siècle, quoique abstrait, difficile, c'est vrai, vous avez raison, c'est difficile à lire probablement, mais je crois que c'est l'arrière-plan, au fond, pour beaucoup des études expérimentales, pour beaucoup des études empiriques aujourd'hui dans les sciences cognitives.
En tout cas, c'est vrai que c'est difficile à lire, et c'est vrai que c'est le genre de littérature qui demande un papier et un crayon, si on veut avancer de façon à peu près assurée, pour ne pas perdre les différents distinguos. Pierre Jacob, je vous remercie, je redonne encore une fois le titre de cet ouvrage, L'intentionnalité, problème de philosophie de l'esprit, il est publié aux éditions Odile Jacob dans la collection Philosophie. C'était Continent Science, Alexandre Danck, Céline Leclerc, Anne Franchini, Stéphane Tully-Georges.